Habiter la France, l'émission de tous les Français présentée par Christophe Bordet sur Radio Territoria.
Habiter la France en direct du salon de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France. Habiter la France, émission que vous connaissez bien sur Radio Territoria et que vous allez pouvoir suivre également sur Radio Imo. Je vous rappelle que nous sommes au salon de l'AMIF à Villepinte pendant 2 jours jusqu'à demain soir. Et donc, tout l'après-midi encore, vous allez pouvoir vivre avec nous des entretiens, rencontrer, découvrir, évidemment, débattre des sujets qui intéressent les communes, les maires qui sont avec nous et qui nous entourent. Et on va parler logement avec l'impact du télétravail en Île-de-France. C'est le sujet d'Habiter la France aujourd'hui, car vous le savez, les confinements successifs, la crise sanitaire ont un peu chamboulé la donne en matière de logement. Est-ce que cette donne est chamboulée pour de bon, ou bien est-ce que ça va durer quelques mois et puis on va tous revenir dans les centres-villes, s'installer dans des petits espaces, etc. Ça va être un peu l'objet justement de ce débat. Et pour en parler, autour de la table, Virginie Alonzi, directrice prospective Bouygues Construction, est avec nous. Bonjour Virginie.
Bonjour
Christophe. Ça va bien ?
Oui, tout
va
très bien, merci.
Bon, merci d'être là en tout cas. Sébastien Le Goascoz, voilà un nom bien breton, je crois. Directeur général du groupe Territoria, PDG du groupe Isimo Arkea Flex. Merci également d'être là.
Bonjour.
Et puis donc, un sociétaire de Radio Imo, voilà, on peut le dire. C'est Jean-Michel Royot, membre du COMEX, groupe Polylogie, qui est avec nous, bailleur social, et qui va, tiens, il va nous dire dans quelques instants comment il voit l'avenir du logement social avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois et les conséquences évidemment que ça peut avoir. Alors je voulais commencer avec Virginie de Bouygues Construction, parce que c'est vrai que vous avez un travail qui est très intéressant et sur plusieurs plans, parce que vous travaillez avec des sociologues. Vous avez un observatoire des usages qui permet aussi de suivre à la lettre ou au pas ce qui se passe réellement. Tout d'abord, ce que l'on a vécu ces derniers mois, c'est quoi ? C'est dans les centres-villes, des grandes villes, des habitants qui décident de partir, qui décident de se mettre au vert, qui décident d'avoir plus d'espace. Est-ce que ce phénomène, selon vous d'abord, est-ce que c'est un phénomène qui va durer dans le temps, ou bien d'ici un an, d'ici 2 ans, on aura presque oublié ce qui s'est passé, parce qu'on est un peu comme ça, nous les humains, finalement. On oublie vite, on a la mémoire courte et parfois les idées larges, c'est pas le cas de tout le monde, mais enfin bon, voilà. Est-ce que vous pensez que ça va durer dans le temps ou pas ?
Oui, ben, en tout cas, si ce phénomène du télétravail perdure, et aujourd'hui, visiblement, d'après les dernières études, les entreprises souhaitent quand même conserver en moyenne à peu près 2 jours de télétravail par semaine, effectivement, il y a une aspiration des Français à aller vivre ailleurs. Alors, je voulais juste quand même préciser que cette aspiration des Français à aller vivre ailleurs, elle existait déjà avant la crise sanitaire. Évidemment, surtout...
La crise l'a amplifiée. Oui.
La crise l'a amplifiée, comme la plupart des tendances, d'ailleurs, que la crise a amplifiée. Et en fait, c'est surtout, effectivement, un phénomène qui, aujourd'hui, se voit dans les métropoles. Mais déjà, fin 2019, en fait, on avait quand même 22% des Français qui aspiraient à aller vivre ailleurs, à avoir plus de proximité avec la nature, à avoir des espaces plus grands. Et en fait, on a mené une étude en début d'année avec l'Opsoco sur un panel de 1000 personnes. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt plus 38% des Français qui, effectivement, souhaitent vraiment aller vivre ailleurs et quitter ces métropoles pour retrouver d'autres aménités comme la nature, la proximité et des espaces beaucoup plus grands.
Alors, chez Bouygues Construction, par exemple, comment vous prenez en compte ces aspirations dans les projets futurs, dans les projets qui sont amenés à sortir de terre ?
Alors justement, l'Observatoire des usages est un très bon outil pour prendre en compte ces aspirations. Je rappelle juste que Bouygues Construction est un acteur B2B, donc on n'est pas en lien direct avec l'utilisateur final, mais ça fait plusieurs années. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille avec des sociologues, avec des chercheurs, avec plein de parties prenantes différentes. Et on a depuis 2 ans créé cet Observatoire des usages pour justement alimenter encore plus les réflexions, les projets, nourrir nos opérationnels sur les attentes des utilisateurs finaux en termes d'usage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, le logement, et c'était déjà le cas aussi avant la crise, on aspire à plus de modularité, de flexibilité. On souhaite avoir des espaces extérieurs, on souhaite avoir un logement confortable, sain. Donc, tous ces éléments, en fait, qu'on peut quantifier au travers de l'Observatoire des usages, viennent justement nourrir les projets, nourrir la R&D, nourrir les offres.
Est-ce que dans ce que vous construisez et dans ce que vous allez construire, on s'est aperçu de choses très intéressantes pendant ce confinement, parce que c'est vrai que les gens ont un peu découvert leur logement, puisque la plupart du temps, on n'est pas chez nous. On est sur la route direction le travail, on est au travail, on revient le soir, enfin, on passe très peu de temps. Et en vivant dans ces logements, on s'est aperçu, par exemple, c'est un exemple, on va pouvoir parler du télétravail, de l'espace bureau qui n'existait pas. On s'est mis à travailler dans la cuisine avec les mômes qui courent autour et qui crient, donc c'était quand même un peu compliqué. Mais on s'est aperçu, par exemple, que nos chambres sont très petites. Est-ce qu'il va falloir travailler, par exemple, sur ce sujet-là, c'est-à-dire refaire des chambres qui soient vivables, quelque part ?
Oui, tout à fait. Les chambres sont très petites. Alors, encore une fois, en particulier dans les métropoles. Après, il y a ce sujet de la chambre, mais il y a aussi surtout ce sujet du salon et puis l'hybridation des usages qui, finalement, avec l'impact du numérique, c'est vrai que de chez soi, donc évidemment, on a connu là cette période de télétravail, mais il y a aussi tout le sujet du e-commerce, le sujet de la télémédecine, le sujet du téléenseignement. Donc, on a vraiment les usages qui s'hybrident au sein du logement. Et pour ça, il faut aujourd'hui adapter le logement et avoir de l'évolutivité, de la modularité au sein de son logement pour pouvoir avoir divers usages qui doivent s'adapter au fil de la journée. Finalement, on n'est pas obligé d'avoir une pièce dédiée pour le télétravail, mais on pourrait très bien avoir un espace qui, au fil de la journée, se transforme en un autre espace en fin de journée.
Mais la question aussi, c'est est-ce que ce télétravail va véritablement prendre l'ampleur qu'on lui prête maintenant que ça y est, tout est rouvert, qu'on peut recommencer à aller dans son entreprise, etc. Parce que ça aussi, on ne sait pas vraiment en réalité. Donc on parie un peu là-dessus pour moduler les espaces, mais en même temps, on ne sait pas vraiment si ce télétravail, ça va vraiment prendre pour de bon et sur la longueur. C'est ça le problème, quand même.
Oui, après, il y a de fortes attentes sociétales sur ce sujet.
Et tout le monde ne peut pas travailler en télétravail.
Voilà. Après, effectivement, il n'y a qu'une partie des fonctions qui sont télétravaillables. Donc, c'est vrai que ça creuse encore plus aujourd'hui les inégalités au sein des populations. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, aujourd'hui, de toute façon, souhaitent aussi optimiser leur mètre carré et puis surtout répondre à ces attentes donc sociétales et donc revoir le bureau, le rendre beaucoup plus attractif, créer beaucoup plus de liens, avoir beaucoup plus d'espace collaboratif et avoir des bureaux qui s'ouvrent aussi davantage en fait sur l'externe.
Bon, Virginie, je vais vous donner un conseil en tout cas pour Bouygues Construction.
Oui.
Je suis assez mal à l'aise lorsque je rentre dans des programmes neufs qui sont très beaux, hein, mais avec des plafonds qui sont de plus en plus bas. J'ai l'impression que j'étouffe. Donc il va falloir rehausser à nouveau les plafonds, parce que je crois qu'on a perdu quand même quelques centimètres en une vingtaine d'années, je crois que c'est 27 centimètres à peu près, un truc comme ça.
Oui, il y a une étude.
Il y a un moment où on a envie de respirer aussi en hauteur, quoi, vous voyez. Ça, il faut le faire, absolument.
Il y a tout un travail spatio-temporel à aborder sur les différents lieux de vie, en fait.
Exactement. On parlait d'espace modulable, Arkéa Flex, justement, avec Sébastien Le Guascoz. Alors, vous êtes une filiale du Crédit Mutuel Arkéa qui détient deux brevets, si j'ai bien compris, sur la conception d'immeubles neufs. Il s'agit de faire des immeubles sans mur porteur. Alors là, je me dis, il y a de la magie quelque part, hein. Il y a un truc. Comment vous faites ?
Alors effectivement, en rencontrant à travers ma fonction chez Easimo, les promoteurs, les utilisateurs, clients privés, on voit bien ce demande de modularité, de flexibilité qui est croissant et la modularité des usages. On voit bien qu'avec les familles monoparentales, avec les divorces, avec les étudiants qui restent de plus en plus à la maison.
Oui, avec cette société qui s'effrite.
Voilà, on a besoin.
Et là, on rejoint tout ce lit, quoi.
Les seniors qui veulent rester à la maison, qui veulent diminuer leur surface, etc. Oui. On voit que ce besoin de flexibilité, les bailleurs sociaux aussi, qui il y a 20, 30 ans faisaient plutôt des 3, 4 pièces et qui aujourd'hui ont une demande plutôt sur des petites surfaces, on voit que cette flexibilité des usages des immeubles est nécessaire et importante. Et on a eu la chance de rencontrer donc Didier Boulin et Laurent Martin qui ont déposé des brevets. Didier Boulin, d'ailleurs, qui a travaillé chez Bouygues Construction pendant pas loin d'une vingtaine d'années et qui a eu l'idée, lors d'un concours Réinventer Paris, de concevoir un immeuble justement qui s'adapte aux usages dans le temps. Et donc, nous avons créé avec Laurent et Didier une JV entre Crédit Mutuel Arkéa.
Une JV ?
Une joint venture, une société, une société dans laquelle nous sommes tous les deux associés, Crédit Mutuel Arkéa, Laurent et Didier, en vue de proposer aux acteurs de l'aménagement, de la promotion et de la construction une technique de conception toute simple visant à rendre un immeuble de logement flexible, un peu sur le même principe d'un bureau où finalement vous avez un noyau porteur, un mur périphérique porteur et les plateaux sont totalement libres de murs de refend, de murs porteurs qui permet l'aménagement au fur et à mesure.
Donc à l'intérieur, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est
exactement
ça un peu le sujet.
Donc l'idée, c'est de finalement décomposer des logements. Donc par exemple, un 3 pièces, au lieu de vendre un 3 pièces, on vend 3 espaces de vie, 3 alvéoles qui sont des unités de copropriété indépendantes pour former un logement. Donc quand un client achète un 3 pièces, il achète 3 alvéoles, 3 lots de copropriété totalement indépendants mais qui forment un ensemble. Ce qui veut dire que le jour où il souhaite par exemple agrandir son logement et que le voisin vend une de ses alvéoles, il a un droit de préférence et il peut agrandir son logement de la même manière qu'une personne âgée qui est trop finalement dans un logement à 4 pièces qui se retrouve dans un logement trop grand et qui veut le diminuer et libérer un capital pour la retraite tout en restant à domicile, peut imaginer diviser son logement et le transformer en 2 pièces et vendre les alvéoles d'à côté soit à des voisins qui en ont la préférence, soit à des gens de l'extérieur. On peut même imaginer les usages de quelqu'un qui n'a pas finalement le budget pour acheter un 4 pièces, qui achète d'abord un 3 pièces, qui a un peu d'investissement pour faire un Pinel. Il achète un 3 pièces et un studio à côté. Et 10 ans après, il le rassemble en 4 pièces. Donc voilà, cette flexibilité de l'intérieur d'un immeuble, on a voulu la simplifier à travers ces deux brevets que du coup, on commercialise aux acteurs du logement.
Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, cette commercialisation a pris une ampleur aussi particulière
Justement, la flexibilité des usages avant Covid, après Covid, on voit bien que les choses évoluent très vite. La durée de vie d'un immeuble...
Il y a une demande.
Mais bien sûr, évident.
Jean-Michel Royot, vous y croyez, vous, à cette flexibilité de l'espace ?
Oui, nécessairement, oui. On se rend compte que ce qu'on avait imaginé il y a 10 ans, 15 ans, n'a pas obligatoirement intégré les variables du contexte qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, on cherche toujours à rendre agile et flexible de l'immobilier. Et quand il n'a pas été conçu pour ça, ça devient très compliqué. J'en veux pour preuve le travail qui est fait pour transformer les bureaux en logements. Où il y a un gros travail, un gros investissement.
C'est pas un serpent de mer, les bureaux en logement.
Non,
ça représente quoi ?
Alors,
c'est un pourcentage vraiment très minime.
Oui, mais dans la rubrique les petites rivières,
feront des grands fleuves.
Je crois qu'il faut pas chercher le produit magique qui va résoudre tous les problèmes d'une manière universelle. On a un sujet sur le foncier, on a un sujet de reconstruire la ville sur la ville. Aujourd'hui, il y a des outils, et je fais un petit clin d'œil à mon ami Alexandre Chérier, qui est président de la foncière Transformer les bureaux en logement, qui a drainé des fonds, parce qu'il faut aussi des fonds pour faire des montages ad hoc, et on y arrive. Aujourd'hui, on y arrive. On a, sur Polylogie, Logirep et Trois Moulins Habitat, plusieurs opérations. Je pense à une opération à Suresnes où on va transformer un ancien siège social en logement étudiant. Et on va permettre à plusieurs dizaines d'étudiants de se loger à un niveau abordable, en termes de loyer, mais aussi de qualité, en transformant des bureaux en logements.
Quand vous dites niveau abordable, pour vous,
c'est la moitié du privé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le logement social, puisque nous, notre ADN, Polylogie, Logirep, c'est un groupe de logement social.
C'est le logement social, oui.
On sort entre 350 et 400 euros, je vous dis en moyenne, pour un logement étudiant quand le privé est au double. Donc, et vous connaissez, sur l'Île-de-France, il y a une très, très grosse pression et un développement très fort. Je crois que sur les dernières années, on a plus de 12% d'étudiants. Et on a un vrai sujet. Là, par exemple, transformer un siège social en logement étudiant, ça a du sens si on y arrive. Et si chaque opérateur de logement social a, comme nous, plusieurs opérations dans le carton, par coup de 50-100 logements, ça peut
être... C'est intéressant, Jean-Michel. Alors, ensuite, mais quand même, juste une chose pour rester un peu là-dessus. Aujourd'hui, il y a tout un tas de logements sociaux, notamment, qui existent, qui sont construits, etc. On sait qu'on ne va pas pouvoir les moduler. On sait qu'on aura toujours le même espace et que si demain, il y a à nouveau un confinement, les gens vont se retrouver à nouveau coincés chez eux dans des petits espaces. Ça, c'est aussi une réalité. Donc là-dessus, on sait qu'on ne peut rien faire ou pratiquement rien faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, pardon de voir toujours le verre à moitié vide.
Je suis profondément optimiste.
Oui.
Profondément optimiste. D'abord, c'est pareil vis-à-vis de la crise, et on est tous malheureux parce qu'on a perdu des proches de cette crise Covid.
C'est vrai.
Mais il y a un côté positif malgré tout, c'est que ça a été un accélérateur sur beaucoup de sujets. Mmh. Et vous voyez le sujet du télétravail. Est-ce qu'on restera en télétravail ou pas ? Avant la crise, il y avait un certain nombre d'expériences. Personne ne croyait que 100% en télétravail, ça pourrait marcher. Or, pas pour tout le monde, mais il y a des entreprises qui ont réussi à faire marcher. Et moi, je fais partie d'un groupe où il y a une grande majorité des gens qui ont pu rester en télétravail. C'était inimaginable il y a 2 ou 3 ans. Simplement, le vécu fait que, en rapport à la réalité, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que le tout télétravail a perduré. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma mixte. Ça répond à des demandes, mais ça répond aussi à des demandes d'entreprises qui veulent aussi, qui se préoccupent du bien-être de leurs salariés. Et là, on voit que le lien emploi-logement, c'est un lien qu'on oublie. Et on raisonne logement
Souvent le logement est éloigné du travail.
Oui, et en fait,
c'est un vrai problème.
Mais pourquoi ? Parce que dans nos logiciels, que ça soit à tous les niveaux des différentes strates de la grande maison France, on sépare l'activité économique du logement. Et on ne réfléchit pas ensemble de savoir où est-ce qu'on doit mettre les logements de demain par rapport au travail de demain.
Donc là, il y a toute une question d'aménagement du territoire.
Il y a un vrai sujet
revoir.
D'aménagement, et on en parlait à la précédente émission. Qui était extrêmement intéressante, et j'engage les auditeurs à télécharger, écouter le podcast s'ils ont loupé cette
émission. Avec le président de Alila, oui, qui était avec.
Absolument, et le maire de Joinville-le-Pont et le maire de Mennecy.
Celui de Mennecy, oui.
Absolument. Voilà, donc il y a un vrai sujet de réflexion sur le lien emploi-logement. Le deuxième sujet, le télétravail, je pense qu'on a montré que le télétravail, ça marchait. Il y a plein d'inconvénients au télétravail. Il y a tout le off, tout ce qui se passe autour de la machine à café qui permet de résoudre plein de problèmes et qui ne se passe pas derrière un écran de Teams.
Ben, le dialogue en réel.
Voilà. Il y a tout le contact humain, et c'est aussi pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, pour quelque part s'approcher, se dialoguer, faire des challenges d'idées. Et ça aussi, ça se passe au quotidien d'entreprise. Je crois, comme l'a dit ma voisine
Virginie
absolument de Bouygues, qu'on va vers une stratégie mixte là aussi, c'est-à-dire qu'il y aura 2 jours télétravail pour ceux qui peuvent télétravailler, peut-être 3 jours télétravail, et le reste ça se fera en physique. Donc il faut que, par rapport à se travailler autrement, on envisage un habitat autrement. Alors, pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'existant ? Nous, on travaille sur différentes pistes. Quand je dis nous, c'est nous, Polylogie, Logirem, mais c'est également la grande famille des bailleurs sociaux qui... Vous savez, c'est 5 millions de logements aujourd'hui en France, détenus par les bailleurs sociaux. Et vous voyez, il y a des réhabilitations qui se font maintenant en proposant des balcons. Mmh. Donc, passer d'un stade où il n'y avait pas de balcon...
Donc, on a un bâtiment sans balcon et on va construire des balcons sur
donc
ces bâtiments.
On va
coller des balcons.
À l'innovation des bureaux d'études, des architectes, de nos amis du bâtiment, on arrive à pluguer des balcons là où il n'y avait pas de balcon. On arrive aussi à dédier un certain nombre de logements qu'on peut transformer en espace de coworking. Parce que là aussi, on raisonne souvent binairement. Soit on travaille à la maison, soit on travaille à l'entreprise. Mais en fait, l'attente des personnes et l'efficacité des personnes, c'est pas obligatoirement, comme vous le disiez, Christophe, de travailler avec les gamins qui tournent autour ou assis dans
son lit
et de faire la chaîne des réunions où on n'a même pas le temps de faire une pause café ou une autre type de pause. Par exemple.
Mais enfin, je rappelle juste par rapport à ça que les confinements ont montré aussi une chose, c'est qu'au lieu de faire une réunion en présentiel dans la journée ou dans la matinée, vous en faites 4. Donc, en réalité, vous travaillez encore plus quand vous êtes confiné.
On est effectivement beaucoup plus efficace, mais on a besoin, et là, il y a un certain nombre de sociologues et de médecins qui l'ont démontré, de créer des rythmes et de changer de terrain de jeu, et donc de passer d'un espace qui est son domicile, qui est le lieu de vie, à un espace qui est le lieu de travail, utile, un espace de coworking où il y a d'autres travailleurs à côté, ça, on s'aperçoit que ça répond aussi à une demande. Donc, que ça soit en production nouvelle avec nos amis du bâtiment ou avec des acteurs comme Arcaflex ou sur l'existant, on peut aussi retravailler en recréant ces espaces partagés dédiés au travail.
Et ça, voilà. C'est possible vraiment, imaginons... Pardon, prenons un exemple. Clamart, dans les Hauts-de-Seine, au hasard. En plein centre-ville, on a des barres d'immeubles construites dans les années 70-80. honnêtement, qui ne ressemblent pas à grand-chose. Hein, ce sont des barres d'immeubles. On ne voit pas très bien dans ces barres d'immeubles où on pourrait trouver un espace pour faire du coworking tout d'un coup.
Par exemple, vous avez au bas des, vous savez que les bailleurs sociaux sont propriétaires de beaucoup de commerces.
Oui.
Bon, y a un sujet de commerce en centre-ville. On pourrait très bien, parce que bon, il y a eu des désaffections, il y a eu beaucoup de faillites, hein, y compris pendant la période Covid. Parce que,
et ça continue, c'est ce que nous disait d'ailleurs la maire de Villepinte ce matin. Ça
voilà,
continue.
C'est bon.
Malheureusement.
Donc, en attendant de retrouver l'énergie sur ce commerce de proximité qui est indispensable à la ville du quart d'heure, et moi j'y crois beaucoup, je ne sais pas si on pourra en parler, parce que
bah vous avez raison.
C'est pas que les commerces, c'est aussi le travail, mais dédier ce type d'espace avec des postes de travail, avec un équipement Wi-Fi, la fibre, pour qu'on vienne avec son portable, on puisse travailler, on puisse imprimer, c'est une réponse assez facile qu'on peut trouver.
Je vais donner la parole à Virginie Alonzi. Est-ce que vous croyez, tout ce qu'on vient de dire là, c'est du bon sens ?
T'as intérêt de
ni
dire
plus
oui.
Ni moins, c'est du bon sens. Virginie, est-ce que vous pensez que ce discours-là, aujourd'hui, les maires, puisqu'on est au Salon des maires d'Île-de-France, l'intègrent et l'ont intégré ?
C'est en cours effectivement d'intégration, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les nouveaux modes de travail, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Michel, ce n'est pas uniquement ni le bureau ni le logement, il y a effectivement tous ces tiers-lieux avec notamment les espaces de coworking, mais c'est aussi parfois du travail en mobilité, et c'est là où il faut savoir effectivement proposer une offre qui puisse convenir à tout le monde et avoir, en fait pour moi je pense que demain le bureau il sera pluriel finalement, à la fois un peu chez soi, dans des tiers-lieux et au bureau beaucoup plus pour justement retrouver toute cette convivialité, tous ces échanges collaboratifs et avoir beaucoup plus d'attractivité que le bureau d'aujourd'hui en fait.
Cela étant, vous continuez de travailler sur le bureau justement. Le bureau n'est pas mort.
Non, pas du tout. Le bureau n'est pas mort. Exactement. Donc justement, il réintègre un petit peu toutes ces notions pour avoir beaucoup plus. Alors c'est vrai que le flex office n'est pas forcément quelque chose qui de prime abord plaît aux travailleurs. En revanche, c'est vrai que pour l'entreprise, il faut savoir quand même que c'est la deuxième dépense en termes d'immobilier, hein, le bureau, après les charges, la masse salariale. Bah oui. Et donc, il y a quand même beaucoup d'optimisation à faire au niveau des mètres carrés. Et là, pourquoi pas finalement les économies générées, justement, s'en servir pour concevoir un bureau beaucoup plus collaboratif, attractif, et puis avec du bien-être, du confort, beaucoup plus de services aussi qui est attendu. Et puis, il y a un mixte qui se met aussi beaucoup en place, c'est ce qu'on appelle le figital, où il va falloir aussi repenser finalement des espaces où on peut mêler à la fois, hybrider le physique et le digital, puisque je pense que cette dimension numérique va perdurer et qu'on aura, je l'espère, beaucoup moins de déplacements, en tout cas, surtout de longues distances.
Oui, vous êtes d'accord avec Jean-Michel là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre les habitations au nord et les entreprises au sud, par exemple.
C'est surtout qu'on arrête le bâtiment monofonctionnel et les quartiers monofonctionnels. Aujourd'hui, c'est vraiment très important d'avoir des bâtiments qui soient
hybrides. Non, mais il faut recréer les villages, c'est ça. On recrée des villages en ville.
On recrée des villages, exactement. Voilà. Et pour ça, on est très en lien, justement, avec un collectif qui s'appelle Hyper Voisins, où on est en train de regarder comment créer de la convivialité, du lien social au sein de villages, au sein des métropoles, finalement. Recréer des villages, la place du village. Et on a des démarches en R&D sur ces sujets-là, en fait.
Ouais.
Place du village.
Non, mais c'est important.
C'est la ville du quart d'heure.
Absolument.
C'est la ville du quart d'heure, c'est la démobilité, c'est l'immobilier serviciel.
Sébastien Le Guascos, vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu ? Vous êtes sur la même ligne ?
Totalement en phase. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'avant Covid et après Covid, il y a un consensus des élus, des acteurs de l'immobilier, des citoyens sur ce sujet. C'est-à-dire, personne ne contredira aujourd'hui qu'un immeuble doit être multifonctionnel, qu'il faut moins se déplacer pour aller de son domicile à son travail, qu'il faut y mettre 2 jours de télétravail, qu'il faut avoir plusieurs bureaux, etc., qu'il faut y mettre du digital. C'est-à-dire qu'il y a un consensus global, comment maintenant adresser rapidement, l'exécuter en parallèle de l'empreinte carbone, qui est l'autre sujet.
Oui, c'est
comment
vrai.
Exécuter en parallèle ces deux sujets. Donc il y a une accélération fantastique, je trouve, dans ce défi de demain.
On va bientôt se quitter, mais vous êtes au Salon des maires. vous tombez face au président de l'association des maires d'Île-de-France, par exemple, Monsieur Baudet, là, je sais pas, dans les couloirs ici, dans les allées, vous avez envie de lui dire quoi ? De lui faire passer quel message ?
Alors, moi, le message que j'aimerais lui passer, c'est que sur les zones tendues, et notamment l'Île-de-France dans laquelle on est, n'oublions pas la crise du logement. N'oublions pas qu'il manque des logements. N'oublions pas que des gens dorment dans la rue et qu'il manque de logements. Et attaquons-nous à l'acte de construire, qui est quand même aujourd'hui, par les élus, attaqué. Et je pense qu'on peut concilier immobilier durable, crise du logement. Il y a des solutions. On parlait de la mixité des usages, la reconversion bureau en logement, aller plus haut, clairement, sur l'immobilier, pour également lutter contre l'artificialisation des sols. Oui. Et n'oublions pas cette crise du logement, parce que j'ai l'impression en ce moment qu'elle passe en second rideau par rapport à l'empreinte carbone
le logement,
et l'urgence climatique.
Mais les deux, dans d'autres émissions, les deux sont pas nouveau, malheureusement, hein, évidemment. Jean-Michel ?
Une remarque que je voudrais faire par rapport à ce que dit Sébastien, je m'inscris complètement en accord avec lui. Peut-être dire par rapport aux gens qui dorment dans la rue, tant qu'on n'a pas bien regardé ce problème-là, on ne voit pas qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture ou dans la rue qui sont
qui
salariés.
Travaillent.
Qui sont salariés. Qui sont salariés. Et de la difficulté d'avoir un boulot quand on n'a pas de logement, c'est franchement. Quasi impossible. Et il y a un vrai drame aujourd'hui là-dessus qui se joue. Hein.
Oui, parce que tout est lié. Hein, quand on cherche du travail, si on n'a pas de logement. Bah,
si on ne peut pas se laver, si on ne peut pas dormir, on ne peut pas travailler. Donc c'est un cercle malheureusement vicieux qui, aujourd'hui, notamment sur la région parisienne, moi je viens de Brest, je viens de province. Clairement, le marché immobilier est pour l'instant encore acceptable. Donc on voit bien la relation de cause à effet entre le logement et les sans-abri. Et sur la région parisienne et les zones tendues, clairement, il manque du logement, donc il faut absolument qu'on adresse ce sujet qui est malheureusement caché.
Les maires ne sont pas forcément les premiers responsables. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont dans les caisses aussi. Il y a un moment, tout à l'heure, vous disiez, ah, les maires...
Je ne dis pas ça, mais l'acte de construire, on ne demande pas non plus aux maires d'ouvrir le chéquier pour construire eux-mêmes. Il y a des solutions pour
s'il y a des
le
privé de chéquier, tout va
et,
bien,
les,
mais
et
si
le public puissent construire des nouveaux logements.
Je rappelle quand même qu'il y a des taxes qui ont été supprimées par l'État et qui permettaient de faire rentrer de l'argent dans les caisses des communes. Ce n'est plus le cas. Donc ça devient forcément compliqué pour le logement derrière. C'est une évidence.
Ah bah, si on construit du logement, on recrée des taxes. Donc on recrée du revenu pour les logements.
D'accord,
pour
mais la taxe d'habitation, elle, on ne la verra plus. Quoi. Donc, et elle n'a pas été remplacée. Jean-Michel ?
Non, ce n'est pas un sujet simple, effectivement, parce que... qui dit logement dit école, dit culture, dit
sport. Oui, derrière, il faut créer des écoles, des services publics.
Il y a un certain nombre de charges de fonctionnement qui incombent aux élus. En même temps, il y a un potentiel de reconstruire sur la ville. Donc, je pense qu'il faut encourager les élus. Il faut faire en sorte que l'élu bâtisseur, ce n'est pas un élu battu, parce que tout se fait avec les élus. Hein. Rien ne peut se décider... sans l'accord du maire, et seul le maire connaît parfaitement bien la couture qu'il faut broder sur sa ville, parce que dans tel endroit c'est un sujet étudiant, dans tel autre c'est un sujet
il connaît son territoire.
Personnes âgées,
l'importance
dans tel autre,
de la décentralisation,
c'est un sujet famille, et plus près on est du territoire, plus on est intelligent.
Virginie, un dernier mot, si vous rencontrez les maires ici cet après-midi, si vous rencontrez le président de la MIF, les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre, vous lui direz quoi ?
Je dirais qu'effectivement, il y a un enjeu très fort aujourd'hui de reconstruire la ville sur la ville et qu'il y a beaucoup d'opportunités avec tous ces espaces sous-utilisés, ces espaces oubliés de la ville. Avant la crise sanitaire, le taux d'utilisation des bureaux était de 30 à 45% en moyenne, celui des établissements scolaires de 20%. Donc en fait, comment on fait aujourd'hui pour déjà optimiser tous ces lieux avant de construire de nouveaux lieux ? Il y a plein de solutions. Il y a notamment ce qu'on appelle la chronotopie qui permet d'alterner différents usages au sein d'un même espace, d'hybrider les usages. Il y a des sujets, effectivement, quand on a une vision plus long terme avec des sujets de réversibilité. On en a parlé tout à l'heure, transformer des bureaux en logements ou vice-versa, ou même des parkings en bureaux. Donc, en tout cas, il y a énormément d'opportunités pour déjà refaire la vie sur la ville et avoir aller vers un urbanisme circulaire. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir notre livrable, notre livre blanc.
Profitez-en.
Voilà, Espace hybride, ville en transition, que vous pouvez trouver sur Internet, qui a été, voilà, c'est une démarche de 10 mois avec une petite centaine de parties prenantes sur ce sujet-là d'urbanisme circulaire, de refaire la ville sur la ville, de créer des espaces à plusieurs usages et plusieurs vies.
Jean-Michel, un dernier mot. Je sais que vous voulez dire quelque chose. Je ne sais pas quoi pour l'instant. On va le découvrir.
Juste une chose.
On a parlé de ces gens qui vivent dans les voitures, qui travaillent en même temps. C'est difficile pour eux. Le confinement et ce que l'on a vécu a aussi malheureusement mis en lumière et accentué un problème. Ce sont les femmes battues.
Oui.
Et moi, je voudrais savoir, Jean-Michel, ce que vous proposez ou ce que vous faites, vous, de votre côté, pour essayer de les aider, parce qu'il faut arriver à quitter le mari violent pour se reconstruire un minimum.
Alors, je voulais juste glisser un peu par rapport à ce que dit Virginie. On est tous en interaction aussi avec des start-up, parce que la nouvelle façon de travailler, la nouvelle façon d'habiter, c'est aussi des jeunes. Et les start-up nous alimentent de nouvelles façons de penser, qui ne sont pas obligatoirement celles du quinca que je suis. Ça, c'était la petite parenthèse. Et pour ceux qui veulent en être convaincus, rendez-vous le vendredi matin sur Radio Immo, très tôt le matin,
avec votre chronique
pour mettre start-up en valeur des startups. Et si les auditeurs ont des startups à pousser, qu'ils n'hésitent pas, on les relaiera avec nos amis.
Absolument.
De Radio Immo. Le sujet que vous abordez est un vrai sujet. Pour nous, c'est un sujet qu'on a mis en tête de gondole. C'est le sujet des femmes victimes de violences. Et effectivement, je l'ai eu dans mon ancien job où j'étais directeur général d'Action Logement Service, où on était extrêmement sollicité sur ce sujet-là. Je crois qu'on a eu plus de 25, plus 30% de déclarés. Même si la loi est plutôt bien faite, qui prévoit que c'est le violent qui doit partir, la réalité du terrain, c'est pas ça.
C'est pas ça, oui.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est on travaille avec les élus évidemment et on tâche de se porter acquéreur de petits hôtels. Évidemment, on travaille avec des associations où il y a des travailleurs sociaux qui sont dédiés à ce type de problématiques pour les accompagner à se reconstruire. Et donc, c'est des petits ensembles de 18 à 25 logements où on a à la fois un bâti, un logement,
oui,
mais également un accompagnement social, un accompagnement financier pour se reconstruire. Parce que c'est un vrai drame que vivent c'est la plupart du temps des dames. La présidente de Polylogie, le groupe dans lequel j'interviens, qui s'appelle Karine Julien, qui a 45 ans, est en particulier très sensible à ce sujet-là. Et donc, on a mobilisé les équipes là-dessus, mais également des moyens financiers, parce que tout ça ne se fait pas sans moyens financiers, pour flécher et trouver des solutions en relation avec les élus, mais également avec les services de l'État.
En tout cas, voilà, si on est intéressé par le sujet, on peut contacter Polylogie.
Voilà, et si des élus, des élus veulent travailler avec nous sur ce sujet-là, on est tout à fait prêt à mobiliser de l'argent et à investir dans leur commune.
Voilà, c'était un petit sujet en aparté thématique.
Merci.
L'impact du télétravail en Île-de-France, notamment parce qu'il n'y a pas qu'en Île-de-France. Merci Sébastien Le Guascos d'avoir participé à l'émission, évidemment.
Merci
beaucoup. Merci à Virginie Alonzi, vous reviendrez.
Avec plaisir, Christophe.
Bon, tant mieux. Et puis, bon, Jean-Michel, je ne lui demande pas s'il revient. Il revient tout seul. Il pousse la porte, il rentre et voilà.
Merci, Christophe.
Merci beaucoup.
Merci, Christophe.
N'oubliez pas, dans quelques instants, Paysans Autrement, on va parler de l'agriculture et des territoires d'Île-de-France qui sont ruraux aussi. On l'oublie trop souvent, bien évidemment. Et puis, l'Express du Grand Paris, c'est à 15h05 avec un invité exceptionnel, Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. À tout à l'heure.
Habiter la France, l'émission de tous les Français à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.